Bonjour mesdames, messieurs, merci de votre présence pour cette dernière leçon. Nous avons donc consacré un très long moment, c'est peut-être été la partie principale de notre exposé cette année, à la situation d'antagonisme que traduit l'installation du feu rituel qui est suivie d'une sorte de déprécation de divinités mauvaises que sont les Daivas. Alors, je voudrais aujourd'hui, ce nous prendra moins de temps, mais c'est aussi un problème beaucoup plus théorique que l'on peut expédier de manière plus rapide, n'est-ce pas ? Je voudrais tout de même dire quelques mots, d'abord, au début de cette leçon, d'un problème qui, sans doute, ne se serait pas posé il y a 15 ans. Il est apparu depuis quelques années que peut-être ce qui était la doctrine fondamentale du mazdéisme ancien, à partir de l'Avesta et durant toute l'époque sassanide, c'était ce que l'on appelle la doctrine des millénaires. On s'était interrogé très longtemps, jusqu'à une quinzaine d'années, sur la présence de cette doctrine dans l'Avesta. On pouvait penser qu'elle était tardive, qu'elle ne se constituait qu'à l'époque sassanide, et ainsi de suite. Or, les 15 années qui se sont écoulées, les 15 dernières années, ont fait apparaître que des éléments de cette doctrine étaient parfaitement repérables dans l'Avesta récent. À tel point que la doctrine des millénaires apparaît aujourd'hui véritablement comme le shibboleth de la doctrine mazdéienne ancienne, ce qui est peut-être la caractéristique centrale de la religion iranienne ancienne par rapport à la religion indienne. Donc, je vous rappelle en gros, très rapidement, en quoi consiste la doctrine des millénaires. Le monde, depuis sa création jusqu'à la résurrection finale des morts, doit durer 12 000 ans. Ces 12 000 ans se divisent en quatre périodes de 3 000 ans. Durant les 3000 premières années, le premier trimillénium, le monde existe sous une forme mentale. Dans les 3000 ans qui suivent, donc de l'an 3000 à l'an 6000 du monde, si vous préférez que je m'exprime comme ça, le monde existe sous forme matérielle, mais il est immobile. À partir de cet an 6000, suite à l'agression d'Ahriman, Angra-Mainyu, le mauvais Mainyu, contre ce monde, c'est ce que l'on appelle l'assaut, Ebgat en pelvis, le monde se met en marche, en quelque sorte. Tous les grands mécanismes du temps se mettent à fonctionner. Hein. Rotation des astres, croissance des plantes, succession des jours et des nuits, ainsi de suite. Et ce système fonctionne pendant 3000 ans. En l'an 9000, Zarathoustra apporte la religion, le nom d'En, la Daina, dans le monde. Et à partir de ce moment, il reste 3000 ans jusqu'à la fin. Jusqu'à la résurrection des morts. Bon, voilà en gros le schéma de la doctrine. Alors, est-ce que cette doctrine est déjà repérable ou non dans l'Avesta ancien et spécialement dans les Gathas qui retiennent notre attention ? Le Yasna Haptankaiti, que nous connaissons relativement bien, ne fait aucune mention de cette doctrine, mais ce n'est pas quelque chose de surprenant. Les Gathas sont plus complexes, comme nous avons pu le voir, car c'est un texte qui fait allusion à des processus. Alors, nous avons la chance de. C'est un passage que j'ai déjà commenté avec vous, mais nous allons le reprendre pour porter le diagnostic qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est la cosmogonie du Yasna 44. Le Yasna 44 est une phrasa, un interrogatoire. Ce sont des questions posées à Ahura Mazda. Et ces strophes 3 à 7 constitue la seule cosmogonie gathique dont nous disposions. C'est le passage référence sur la cosmogonie, pas que nous offrent les gathas. Donc, voyons comment les choses se passent dans cette cosmogonie. Comment elle se comment elle se développe ? Quel est le processus ? La première strophe nous dit très clairement que le premier acte possible, c'est la naissance, c'est l'engendrement d'Acha. Quel est le père premier de l'agencement ? Par engendrement, Zanta. Il s'agit donc, métaphoriquement ou non, d'un engendrement parfaitement, je dirais, physiologique. Hein, le nom du père, le nom de l'engendrement sont présents. Donc, c'est l'acte premier de la cosmogonie. Le principe de l'agencement du monde est engendré. À la suite de cet engendrement, les luminaires célestes entament leur rotation. Hein. Qui a fixé le chemin du soleil et des étoiles ? Qui fait que la lune croît et tantôt décroît ? Ce sont ces choses que je veux savoir au Mazda, etc. Donc, deuxième strophe, il s'agit cette fois de l'aménagement des trois espaces du monde, l'espace céleste, l'espace intermédiaire et l'espace terrestre. Donc, qui donc a retenu la terre en bas et les nues de tomber ? Qui a séparé les eaux des plantes ? Qui a attelé de rapides chevaux le vent et les nuages ? Et puis, apparition de la deuxième entité, qui donc est le fondateur de la divine pensée, ou Mazda. Donc, la fondation de la deuxième entité principale par ordre de fréquence de l'attestation du nom apparaît. La Vohumana, la bonne pensée, est donc consécutive à l'aménagement des trois espaces du monde. Cinquième strophe, quel bon ouvrier a séparé la lumière diurne des ténèbres, quel bon ouvrier a séparé le sommeil de la veille, qui fait que l'aurore, le midi et la nuit font penser celui qui désire à l'objet de son désir. Cette strophe-ci, peut-être le texte qui vous a été distribué la semaine dernière, je n'avais pas à cette époque encore peut-être été attentif à... Et puis, je n'avais pas non plus les informations les plus récentes sur certaines choses. Il y a un aspect ici extrêmement intéressant, parce que là, à la fin de la strophe 4, la bonne pensée apparaît, mais son action n'est pas encore détaillée, elle n'est pas encore analysée. C'est cette strophe-ci qui le fait. La mise en marche du temps et l'aménagement des espaces du monde, désormais va servir de cadre par l'intermédiaire de la pensée, va servir de cadre, la pensée va transformer ces opérations en phases rituelles. Hein, en phases rituelles. Et le nom des trois phases rituelles clôture la strophe, l'aurore, le midi et la nuit. Ce sont les trois phases rituelles gathiques, comme depuis lors, Alberto Cantera, d'une part, indépendamment l'un de l'autre, c'est très intéressant, Alberto Cantera, dans une conférence qu'il a faite devant vous, oralement, et Helmut Humbach, dans son livre de 2010, s'accorde à le penser. Nous avons ici la transformation du mécanisme cosmique en phase rituelle par l'intermédiaire de la pensée. C'est donc une vision profondément théologique dans cette cosmogonie. Alors, le texte, désormais, opère comme une vérification de la légitimité rituelle qui vient d'être, à laquelle on vient d'aboutir. Et on le trouve dans la sixième strophe. Dis-moi si les mots que je vais dire sont vrais ainsi. Hein, ouvrez les guillemets. La juste pensée, c'est-à-dire Armaïti, soutient l'agencement par les actes et attribue le pouvoir par la bonne pensée. Dès lors, si c'est juste, pour rendre qui plus heureux, as-tu charpenté, as-tu fabriqué la vache pleine ? Vous remarquez que la vache, cet être vivant matériel, apparaît ici au premier rang, immédiatement, puisque Armaïti et Kshatra sont eux aussi des entités mentales. Alors, la dernière strophe cosmogonique, la septième, apparaît comme consacré via les deux entités, Armaïti et Kshatra, à l'apparition des êtres vivants, qui charpente la juste pensée avec la capacité de la rendre admirée. Derrière la juste pensée, vous voyez la terre, puisque c'est sa double nature, qui, par intervalle, a mis un fils debout sur la terre pour le père. Dès lors, la cosmogonie se conflue ainsi finalement dans la fondation du sacrifice. Oui, c'est intéressant comme processus cosmogonique. Ce qui peut nous frapper, nous, pour notre vérification, c'est qu'ici, il n'est pas question de faire des entités depuis Asha jusqu'à Armaïti, ce que l'Avesta récent, dans le cadre de la doctrine des millénaires, appelle les Paurva Data Dharman, c'est-à-dire les premières créations. Car selon la doctrine des millénaires que nous pouvons lire dans divers secteurs de l'Avesta récent, la première phase de la cosmogonie consiste à créer les entités mentales, Asha, mais d'abord Vohumana. La création de Vohumana, contrairement à ce qui est visible ici avec l'engendrement d'Asha, la création de Vohumana est primordiale. Car c'est, si on veut, le Big Bang de la cosmogonie de l'Avesta récent, Ahura Mazda met en mouvement la pensée d'abord. N'est-ce pas ? Et grâce à cette pensée qu'il s'approprie, hein, car la pensée qu'il met en mouvement, il se l'approprie, il l'exerce lui-même, Ahura Mazda, c'est le sens du Yasna 19, si vous voulez vous y reporter, Ahura Mazda prend conscience de l'agencement du monde, il prend conscience d'Asha. Grâce à la pensée. Donc la pensée précède l'agencement du monde. C'est par la pensée qu'on peut en prendre conscience. Et puis, grâce à cette pensée, Ahura Mazda devient capable d'exercer le pouvoir, d'exercer le kshatra. Il se l'approprie. Donc, ces entités neutres et abstraites, n'est-ce pas, sont les toutes premières créations. Elles sont d'ailleurs appelées comme ça, les premières créations créées. Hein, avec une belle amphigourie sur le mot création. Première création créée, dira l'Avesta récent. Ici, il n'est pas question de ça. Vous voyez que le schéma est différent. Il y a en fait, il y a un entrelac. Les créations abstraites alternent, n'est-ce pas, constituent une sorte de réseau qui enserre les créations naturelles. Et ces créations naturelles confluent, cela c'est commun à la pensée, mais c'est un schéma de l'Avesta ancien, de l'Avesta récent, mais c'est un schéma indo-iranien global. Hein, bien sûr, tout cela aboutit à la fondation du sacrifice. C'est aussi le cas, d'ailleurs, dans la cosmogonie de l'Avesta récent. Donc, nous ne pouvons pas déceler dans la cosmogonie vieille avestique telle que nous la lisons ici, une succession de phases. Hein, une succession de phases où l'on voit d'abord l'état mental, puis l'état matériel immobile, enfin l'état matériel mobile. C'est un schéma qui n'est pas ici. Mais, et c'est là-dessus que nous abandonnerons ce sujet, il y a quelque chose, n'est-ce pas ? Il y a le germe, de la vision avestique récente de la doctrine des millénaires. Il est en germe, n'est-ce pas ? C'est tout de même que toute la démarche théologique des Gathas, nous n'avons pas cessé de le voir depuis le début de ces cours, toute leur démarche théologique est fondée sur un concept que nous rencontrons sans cesse. C'est la double nature des choses. Les choses ont une double nature. Elles ont une nature osseuse et une nature mentale, n'est-ce pas ? Toutes les divinités fonctionnent de cette manière, tout le monde fonctionne de cette manière, et c'est quelque chose qui nous aurait peut-être échappé à jamais si le schéma n'avait pas été trahi en quelque sorte, n'est-ce pas ? Si l'aveu n'en avait pas été fait, surtout à propos d'Armaïti, hein, où les textes disent encore clairement quelle est la terre, mais qu'elle est aussi une allégorie féminine de la pensée. Pourquoi est-ce que là, le secret n'est pas gardé dans la terminologie ? Nous avons une raison, je crois, une raison qui apparaît presque clairement dans les textes, n'est-ce pas ? Entre autres dans l'Yasna Haptankaiti. C'est que la terre, c'est ce qui porte le sacrifice. Alors, là, le caractère concret de la Terre est beaucoup plus sensible que celui de n'importe quelle autre entité, de n'importe quelle autre divinité. C'est la porteuse du sacrifice. Le feu rituel est alimenté par la Terre, il repose sur la Terre et il est sacrifiant aussi. C'est une idée que nous trouvons et je terminerai cette réflexion là-dessus. Alors, je voudrais, c'est ce que je me promettais de faire aussi comme ultime vérification à la fin de cette série de cours, c'est tout de même dire un mot du monothéisme, puisque le système gathique a été considéré, il l'est toujours traditionnellement, comme l'un des l'un des grands systèmes de formation d'un monothéisme religieux avec la formation du monothéisme juif. Je voudrais aborder ce problème d'une manière qui ne soit ni théologique, bien sûr, mais non plus théorique, et voir comment fonctionne, en définitive, ce bien réel panthéon dont nous avons la mention avec le nom des entités dans les gathas. Alors, il faut peut-être commencer par se rappeler la vieille question dite des Ameshaspenta. J'en ai parlé pour vous exposer les restrictions que nous devions faire à cette appellation et à la doctrine traditionnelle qui veut que dès le départ, dès les Gathas, le grand dieu Ahuramazda soit entouré de six entités permanentes et fixes, en quelque sorte canonique, c'est le terme qui a été emprunté. En réalité, les différentes strates de l'Avesta présentent ce panthéon d'entités de manière, n'est pas composé de la même manière, n'est-ce pas ? Alors, nous allons nous rappeler ça. Pour les listes que vous pouvez observer dans la projection sont toutes les trois restrictives, il faut le savoir. Elles n'ont rien de canonique. Ce sont des listes restrictives, comme l'a montré Johann Arten depuis 1982. La liste récente, qui passait pour la liste canonique, n'apparaît comme telle que dans le livre des Yasht. C'est très curieux, mais seuls les Yasht disent de manière explicite que les entités sont sept, mais il y en a sept avec Ahuramazda, ce sont ces six-là, toujours mentionnés dans cet ordre, effectivement, il y a un ordre fixe. Mais ce n'est pas vrai de tout l'Avesta récent. Le Yasna, par exemple, mentionne parfois quelques entités supplémentaires. Ce n'est pas, évidemment, le lieu aujourd'hui de... Nous en avons déjà parlé. Hein. Alors, la liste haptahatique, qui est semi-ouverte, semi-fermée, on peut y distinguer six entités si on limite son propos au chapitre 37, premier chapitre du Yasna proprement dit. À qui offre-t-on le sacrifice ? À qui dit-on Yasamaïdé ? Eh bien, d'abord à Ahuramazda et aux six entités dont le nom figure devant vous. Il y a donc dans le Yasna 37 une volonté réelle de réduire la liste à sept personnes, ça c'est clair. Hein. Seulement, le Yasna 38 et le Yasna 39 va poursuivre l'énumération. C'est donc une sélection, d'une certaine manière. Alors, la liste gathique. Eh bien, la liste gathique, elle est purement théorique. Elle est purement théorique jusqu'ici. Vous allez voir, on va faire un petit effort. Mais la liste gathique, comment elle a été constituée, ce que vous voyez, en repérant les éléments de personnification. Quels sont les éléments de personnification ? S'adresser à une entité au vocatif, ça en fait une personne. L'introduire dans un lien génétique, fils ou fille d'Ahuramazda, par exemple, ou bien lui décerner un titre divin. Alors, si on fait le compte, il y a aussi, peut-être est-ce un hasard, peut-être ne l'est-ce pas, six entités gathiques dont vous voyez le nom, qui ne diffèrent d'ailleurs des entités haptahatiques que par un seul nom. Au lieu de Seratu, qui est d'ailleurs un nom parfaitement incompréhensible, je ne peux pas le traduire, hein, au lieu de Seratu figure le mot Ada, qui qui n'est pourtant attesté que trois fois, mais qui a son importance, comme vous allez le voir. Alors, la liste canonique des Yasht, canonique mais restrictive des Yasht, il semble, en apparence, qu'elle figure dans la troisième, à l'ouverture, dans la première strophe de la troisième gatha, dans le Yasna 47.1. Hein, le Yasna 47.1, qui est d'ailleurs, les noms des entités, sont, des six entités des Yasht, sont rassemblés dans le Yasna 47.1, et de telle sorte même que ces noms constituent à eux seuls presque toute la matière linguistique de la strophe. Donc, par le Manu Fast, la très bonne pensée, Vohumana, l'acte et la parole, conformément à l'agencement, Asha, il, un de ses sujets elliptiques, qui est il au pluriel, je ne le sais pas, il lui donne la santé et l'immortalité. Donc, les Amurtat et Hurvatat, Ahura Mazda, le grand dieu, se trouve en compagnie du pouvoir, Kshatra, et de la juste pensée, Armaïti. Et oui, toutes ici sont rassemblées avec le Manu, mais aussi la triade du comportement, dans cette toute première strophe de la Gintha Spenta Mainyu, les six entités de base de la liste récente. Cette strophe, qui est la seule qui était réputée la seule à faire ce rassemblement, hein, est longtemps passé pour un argument sur la permanence du schéma des six Amushaspenta dans le système mazdéen ancien. Cela a été, bien sûr, ça a été l'une des réactions, pas l'une des choses qui ont été critiquées par Johanna d'Arten dans son livre. Alors, nous allons, nous, observer les choses un peu autrement, c'est-à-dire à la lumière du travail que nous avons fait ensemble jusqu'ici cette année. Nous avons tout de même observé selon quel processus le panthéon des Gathas était intégré, n'est-ce pas, au rite de la Gatha Unavaiti, au long rite, avec son long processus, hein, de la toute première Gatha. Et nous avons vu, nous avons pu faire certaines observations. Je vous les rappelle, qu'il s'agisse bien d'un panthéon, le début même de la Gatha nous l'indique sans aucune, sans caractère contestable. C'est incontestable. Le Yasna 28.1, qui formule la demande inaugurale de la Gatha, le Yana, je vous demande, Yasa, hein, désigne les entités comme un corps global. Je vous demande à tous. C'est donc, ils ont, et alors la demande va se faire plus précise. Chaque entité à tour de rôle va être interpellée, hein, au vocatif, et priée d'accorder quelque chose. Chacune aura sa demande, en quelque sorte. C'est pas, cela se fait en pointillé, tour à tour. Le panthéon est dispersé. Il apparaît comme une succession de personnes. Dans tout l'Yasna 28, je vous en avais fait la remarque. Donc, un corps général de divinité, secondaire peut-être, parce qu'il est clair qu'Ahura Mazda chapeaute le tout, mais qui sont traités comme autant de personnes et à qui on s'adresse, les Indiens auraient dit en Hurtugraha, chacun son tour. Hein, chacun son tour. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de lancer l'invitation à se réunir avec les sacrifiants autour du feu, brutalement, pas, ce corps d'entité dispersé se rassemble. Et cela, c'est la strophe 31.4, qui survient d'ailleurs immédiatement après un dernier emploi de vispa, tous, pour s'adresser aux divinités. Alors, donc nous allons reprendre le panthéon de cette strophe 31.4. Le nom des Ahura est mentionné au pluriel. Chacune de ces entités est donc très clairement désignée comme étant un Ahura, hein, au même titre que Mazda. Alors, ils font l'objet d'une invitation, le mot s'accorde avec le seul achat, mais il faut leur lancer l'invitation à venir auprès du feu. Alors, les entités, nous en trouvons six. Hein. Ce sont les quatre entités traditionnelles, Asha, Armaïti, Vohumana, Kshatra, et il y en a cinquième entité, ça fera six, Akawa Mazda, c'est une autre entité féminine. Je vous ai d'ailleurs, j'ai insisté lorsque nous avons parlé de ces strophes sur le fait que le rassemblement du panthéon que l'on observe dans certaines strophes gathiques ne peut être considéré comme un véritable rassemblement que s'il y a deux entités féminines. Donc une entité supplémentaire par rapport aux quatre entités habituelles dont le nom est fréquemment mentionné. Et cette entité ici est Ashi. Donc là, nous avons le premier rassemblement du Panthéon lorsqu'on lance l'invitation autour du feu. Le processus de préparation du feu se poursuit. Entre le Yasna 31-6 et le Yasna 31-21, Ahura Mazda est prié de parler, de transférer sa science aux officiants sacrificiels et de dresser le programme du sacrifice. Et ce programme, il est enclos dans le discours de clôture que forment à l'intérieur du Yasna 31, la strophe 6 et la strophe 21. Eh bien, ces strophes mentionnent le nom des deux entités, des deux entités qui formeront le groupe de l'Avesta récent, à savoir la santé, Urvatat, et l'immortalité, Amurtat. Ne font pas partie du premier rassemblement d'entités du Yasna 31-4, mais immédiatement après, à partir du Yasna 31-6, les entités qui constituent les forces de l'immortalité, et qui sont au mieux au moins deux, au plus quatre, la santé, Ovatat, l'immortalité, il y a au moins ces deux-là. Et puis alors, leurs deux comparses, Tavishi et Utayuiti, la jeunesse et la force. La liste n'est pas toujours complète, elle a une extension plus ou moins grande. Donc il semble donc que ce soit, ici, c'est le programme du sacrifice, et effectivement, le nom des entités Amurtat et Urvatat va réapparaître au début du moment sacrificiel, ce que nous avons appelé l'an dernier le moment sacrificiel, c'est-à-dire le moment où l'on va procéder aux deux offrandes essentielles, celle de Hauma d'abord, dans le Yasna 33, et celle de Cher dans le Yasna 34. Dès lors, le moment de la libation de Hauma, selon le rite d'aujourd'hui, culmine avec l'ultime hémistiche de la strophe 33-11. Or, la strophe 33-11 est le second grand rassemblement d'entités, le second rassemblement du Panthéon que l'on observe dans le Yasna, dans la Gatha Avunavaiti, excusez-moi. Alors, observons leur nom, qui constitue aussi ici une bonne partie de la strophe, Ahura Mazda, bien sûr, Armaïti, Asha, Vohumana et Kshatra. On s'adresse à eux, on leur demande bien sûr d'entendre et d'avoir pitié, c'est le sens, d'entendre, rappelez-vous, nous l'avons vu ce que cela voulait dire, de bien entendre le bruit des pressoirs de Hauma. Donc écoutez, ayez pitié, vous tous, mais tous les noms sont en succession immédiate. C'est un seul impératif ou deux, n'est-ce pas, l'occurrence, pour le même corps de divinité. Et à quel moment faut-il entendre? Eh bien, Adai Karyachit Paiti, lors de l'Ada, que j'ai traduit par présentation d'offrande, mais étant donné le moment liturgique que nous avons la chance de connaître à cause de la continuité du rite, nous avons de bonnes raisons de nous demander, pas le prouver, mais de bonnes raisons de soupçonner que Ada soit le nom même de la libation de Hauma. D'ailleurs, le mot est attesté trois fois. Il varie, et l'une, la deuxième attestation, elle est immédiate. Elle se trouve dans la strophe consécutive, au Yasna 33-12, où il semble qu'Aoura s'adresse peut-être à Aoura Mazda, mais à Aoura Mazda en tant que soleil, hein, puisque le verbe ushar, lève-toi, est le verbe même du lever de l'astre solaire, lève-toi ou Aoura, de Armaïti, de la juste pensée, reçoit Tevishim. Ah oui, voilà elliptiquement l'une des entités qui entrent dans la série de l'immortalité, la force. Hein. Et tout cela par la très bonne de par le Manu, et alors reçoit l'Ada. L'Ada fonctionne comme une entité ici, effectivement, elle entre dans la liste, reçoit la vivacité, reçoit la force agressive dominante de l'agencement et de la bonne pensée, reçoit la sera tout, rassemblement d'entités avec Ada. Le processus, nous allons le laisser ici. Alors, nous voyons en fait ce qui peut faire la différence entre la gata hunavaiti, la gata spentamainyu, c'est quelque chose que nous avons déjà observé. C'est que la liturgie de la gata hunavaiti est une liturgie très progressive. Elle s'étale au long, pas du processus liturgique. Il faut un grand nombre d'opérations, de phases sacrificielles pour arriver à l'offrande finale. La gata spentamainyu, c'est la plus courte des gathas polyhatiques, et l'on voit que, peut-être et surtout aussi parce que sans doute son moment rituel est différent, ce n'est pas un rite qui commence dans la nuit et qui s'achève avec le lever du soleil, n'est-ce pas ? Mais immédiatement, avec la strophe 47.1, nous l'observons maintenant, n'est-ce pas ? C'est que la jonction est opérée avec les entités, entre les entités qui font l'objet de l'invitation, celles qui figurent dans le Yasna 31.4, et les entités, je ne les appellerai pas finales, parce que la finalité, vous allez voir, elle est un peu différente. Je vous proposerai de définir les deux groupes entités primaires. Hein. Les entités primaires ou les entités initiales, si vous voulez, ce sont celles qui figurent dans la strophe 31.4. Hein. Dans la strophe 31.4, et dont le noyau dur est Asha, Vohumana, Kshatra et Armaïti, plus au moins une entité féminine. Elle sera variable, comme nous verrons. Et alors, il y a ce que j'appellerai les entités secondaires. Les entités secondaires, ce sont celles qui font leur apparition avec le Yasna 31.6, hein, celles qui constituent la teneur finale du sacrifice. Celle dans la gata hunavaiti va pourvoir la divinité, car elle constitue dans la gata hunavaiti des offrandes à la divinité. L'immortalité, la santé, la force, hein, et la jeunesse. Ça, ce seront les entités secondaires. Et c'est, le but du sacrifice, c'est à un moment donné de les réunir, hein, de réunir les entités primaires et les entités secondaires. Dans la gata spentamainyu, c'est fait d'emblée. C'est un donné initial. La toute première strophe opère la fusion. Ces entités sont ensemble. Ici, la fusion s'opère entre le Yasna 31.4 et le Yasna 33.8. Et le Yasna 33.8, le Yasna 33.11 plutôt, excusez-moi, où l'on voit apparaître dans la strophe 12 l'entité Tavishi, c'est-à-dire, semble-t-il, au moment où culmine, avec le Yasna 33.11, la libation de Hauma, qui est versée à l'est du feu sacrificiel. Alors, est-ce que l'on... Je voudrais faire remarquer aussi deux faits, cependant, qui sont communs à la gata hunavaiti et à la gata spentamainyu, malgré leur différence fondamentale, hein, c'est-à-dire processus ou pas processus. Bon. C'est tout de même la présence, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas défini l'immortalité comme une entité finale. Il y a une entité finale. Enfin, une entité qui est consécutive à la fusion entre les deux listes d'entités elles-mêmes. C'est la Daïna, n'est-ce pas ? C'est la Daïna. Elle, elle est véritablement l'entité finale. Pour que les chemins de la Daïna apparaissent, n'est-ce pas ? Pour que le kratu, la force mentale des Saoshiens, progresse, n'est-ce pas ? En assimilant la progression de la lumière diurne sur la route sacrificielle, eh bien, il faut que la fusion avec des entités primaires et secondaires soit opérée. Et alors apparaît la Daïna qui, elle, apparaît littéralement comme l'entité finale par excellence et unique du processus. Nous le voyons de manière extrêmement claire avec le Yasna 33. Fusion entre entités primaires et secondaires dans la strophe 12 et dans le Yasna 33, la terre est priée, Ospenta Armaiti, aux justes pensées bienfaisantes, propulse les Daïna conformément à l'agencement. C'est-à-dire, donne le mouvement, le mot Hachi est d'ailleurs là, c'est indiqué dans le texte, mais dans un vers très, très mal compréhensible, elle doit donner le mouvement à la progression de la lumière diurne, hein, la Daïna. On retrouve la même... le même processus dans la suite de la Gatha Unavaiti. Il n'y a plus de rassemblement complet d'entités, mais je vous en ai donné les éléments. Lorsque, au Yasna 34, l'on va procéder à l'offrande carnée, au dépôt de chair animale dans le feu, eh bien, on verra réapparaître le nom d'Amurtat et Horvatat, hein, du Yasna 34.1 au Yasna 34.11, eh bien, dans la strophe 34.13, la Daïna aussi va prendre la route. La Daïna des Saoshiant, Daïna Saoshiantam, Vrakshat, elle chemine. Hein. Donc, le processus se reproduit, mais se reproduit de manière, je dirais, elliptique. Il n'y a plus de liste globale d'entités. Alors, je voudrais, pour... préciser encore le processus qui est en cours ici. Voir ce qui se passe dans la Gatha Ushtavaiti, la deuxième Gatha. Lorsque l'opération d'identification entre le feu rituel et le Manyu a eu lieu, c'est l'Yasna 43, nous en avons lu, souvenez-vous, quelques extraits, eh bien, le Yasna 43, son ultime strophe, rassemble le panthéon, très exactement comme dans l'Yasna 31.4. À la suite de l'opération d'identification du feu et du Manyu, le panthéon se rassemble autour du feu. C'est l'objet de la dernière strophe. Hein, vous voyez, « O Ahura Mazda, voici que Zarathustra choisit ton Manyu. » Alors, la série va commencer. « Puisse l'agencement, puisse achat, un achat osseux. » être impérieux par son animation, puisse Armaiti, la juste pensée, se trouver dans le kshatra, dans un pouvoir exposé au soleil, et donner Hachi, donner l'impulsion, Hachi, par les actes et la bonne pensée, Vohumana. Donc, ce sont très exactement les entités du Yasna 31.4, hein, les entités... dans le Yasna 45-10, la fusion s'opère entre ces entités primaires et ces entités secondaires. La strophe 47-10 présente d'ailleurs, alors c'est un fait qui était souvent omis, c'est pour ça, fait très exactement la même liste d'entités que le Yasna 47-1. Hein, et nous pouvons les voir. Nous efforçons de gratifier des sacrifices de la juste pensée, donc d'Armaïti, Ahura Mazda, hein, qui est entendu par le souffle que cette juste pensée lui a conféré par Acha et par Vohumana. Et au moment où s'exerce son kshatra, il, sujet elliptique comme dans 47.1, il lui donne en bien propre Horvatat et Amurtat, la santé et l'immortalité, la jeunesse et la force, Te Vichy ou Taiyuiti. Alors, la fusion des deux listes a eu lieu et 45-11, le nom de la Daïna est mentionné, l'entité finale. Le processus est très exactement le même. Oui, le processus est très exactement le même, mais avec un détail supplémentaire, n'est-ce pas, que nous devons nécessairement exploiter. C'est une strophe que nous venons d'examiner dans le cadre cosmogonique. C'est la strophe 44-6. C'est aussi une liste de rassemblement du Panthéon. On y retrouve le nom d'Asha, le nom d'Armaïti, le Kshatra, le Vohumana. Oui, ça ne fait que les quatre entités traditionnelles, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a la vache. Entité féminine, peut-être, elle aussi. Alors, l'hypothèse que je voudrais faire maintenant devant vous, n'est-ce pas, c'est celle-ci. Comment s'opère la fusion entre les entités primaires et les entités secondaires? Qu'est-ce qui fait que les allégories abstraites de la pensée sont brutalement réunies aux entités de l'immortalité? C'est bien entendu l'offrande sacrificielle. Elle apparaît ici, par l'intermédiaire de la vache et de son immolation. Alors, ça peut être naturellement autre chose. Il y a une entité que j'appellerai ici opératoire. L'entité opératoire, c'est la vache. Si nous revenons à la situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus progressive de la Gatha Avunavaiti, il y a aussi une entité opératoire. Et cette entité opératoire, son nom figure dans la strophe 11, juste avant que Tavishi ne soit introduite dans la liste de 13. Et ce n'est pas la vache ici, mais c'est aussi une entité sacrificielle, celle qui joue le rôle du trait d'union entre la pensée et l'immortalité. C'est Ada. Et c'est l'autre versant du sacrifice, hein, c'est-à-dire le mot qui désigne ou tout au moins est prononcé au moment où l'on procède à la libation haumique. Donc le hauma d'une part, la vache d'autre part, constitue l'agent sacrificiel par excellence qui permet de passer de la pensée à l'immortalité. Nous pouvons voir, alors je voudrais poursuivre la vérification un peu plus loin. Je vais vous faire remarquer que dans la Gatha Spenta Mainyu, dans la Gatha Spenta Mainyu, entre la strophe 47.1 et la strophe 49.5, la strophe 49.1, comporte la troisième et dernière attestation gathique du mot « Ada ». On demande au Dieu de venir, « Venez », dit le sacrifiant, « car notre Ada, alors, disons, ayons l'audace de dire la libation trauma, est excellente. Elle est excellente, venez. Donc, ici aussi, le mot Ada figure entre les deux rassemblements du Panthéon. Je voudrais maintenant peut-être faire une ultime vérification, c'est voir comment le Yasna 51, c'est une gatha dans un seul chapitre, mais le Yasna 51, lui aussi, procède à deux rassemblements généraux du Panthéon. La liste des entités primaires figure dans la strophe 51.4. Sera tout, peut-être Murjdika, certainement, Asha, si ce sont les noms traditionnels, Armaïti, Vohumana, Kshatra et bien sûr Ahura Mazda. C'est une série de questions. Où sont-ils? Où puis-je les trouver? Et le rassemblement s'opère dans la strophe 51-21, où on trouve le nom d'Armaïti, la Daïna, l'entité finale, Asha, Vohumana, Kshatra, Ahura Mazda et l'entité Ashi. L'entité Ashi. N'est-ce pas ? Alors, ici, les entités secondaires ne figurent pas, c'est immédiatement l'entité finale Daïna, mais voyons ce qui se situe à mi-chemin, en quelque sorte, plus près de la strophe 4 que de la strophe 21. Bien, on trouve là, le Yasna 51-7. Ô Mazda, toi qui as taillé la vache, les os et les plantes, donne-moi l'immortalité et la santé par le manu très faste, la force et la jeunesse par la bonne pensée. Le nom des entités secondaires figure est rassemblé ici avec la vache, hein, avec la vache, dont le nom d'ailleurs est déjà attesté dans la strophe 5, qui n'est pas très facile à comprendre. Mais on voit à nouveau ce rôle de transition, n'est-ce pas, joué par l'entité vache. Hein, dans ce, alors, ce Yasna 51, les auditeurs du séminaire le savent bien, il présente cette particularité dans le rite gathique que l'immortalité est ici réellement quelque chose que les hommes demandent. Alors que dans les autres gathas, l'immortalité est quelque chose que l'on offre aux dieux par le sacrifice. C'est ce qui fait la nature de l'offrande. Hein, et ce qui fait, ce sacrifice est conçu comme le renforcement de l'immortalité divine. Bien ici, non. C'est les hommes qui la demandent, l'immortalité, ce qui va avec, hein, les autres entités secondaires, ils la demandent pour eux-mêmes. C'est une caractéristique de l'ultime gatha et qui tient peut-être à ce que je crois être sa fonction, et parce qu'il me semble que l'ultime gatha constitue un rite funéraire. Le rite funéraire, évidemment, rend logique cette demande-là. Bien, alors voilà, nous avons vu ce qu'est le panthéon. Bien sûr, est-ce que revenons au mot monothéisme pour terminer, si vous voulez bien. Il y a un panthéon, mais un panthéon de dieux subordonnés. Le nom des dieux auxquels le Rig Veda indien, que le Rig Veda indien nous donnerait à attendre, sont absents. Mais nous avons vu que dans le panthéon même de l'Avesta récent, il n'y a guère que trois divinités traditionnelles qui soient de retour, en quelque sorte, dans le panthéon de l'Avesta récent. Souvenez-vous, c'est le petit-fils des eaux, Apamnapat, mais petit-fils des eaux, on ne peut pas parler avec lui de retour au polythéisme, puisqu'Apamnapat n'est qu'une forme du feu sacrificiel. C'est le feu après le sacrifice, quand il a été éteint. Donc une forme du feu, ça ne compte pas. Hein. Il y a le dieu Vayu qui pose un problème difficile. Je préfère le laisser en réserve. Mais c'est un dieu mal intégré, nous le savons bien. Hein. Il ne joue jamais le rôle d'un patron d'un temps sacrificiel. C'est un dieu qui semble s'introduire assez hâtivement dans les listes énumératives. Il y a bien sûr le cas de Mitra, dont nous avons parlé il y a 2 ou 3 ans. Hein. Alors, Mitra, bien sûr, son nom ne figure pas une fois au pluriel, c'est-à-dire autrement que comme divinité. Le mot est attesté, mais ne désigne pas une divinité, une fois dans les gathas. Alors, est-ce que son absence est hasardeuse? On l'a dit, hein, vous savez que Madame Boyce, par exemple, qui ne croit pas au monothéisme des gathas, ou Cherveux, qui n'y croit pas non plus, ont pu écrire que, puisque les gathas sont des hymnes à Ahura Mazda, il n'est pas nécessaire de prononcer le nom d'autres divinités. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, moi, je voudrais peut-être expliquer l'absence hasardeuse d'une autre manière. En pensant que c'est le cas, n'est-ce pas? J'imagine la situation où les prêtres des gathas connaissent parfaitement Mitra et en d'autres occasions peuvent lui offrir des cérémonies sacrificielles. Ont-ils une raison de ne pas prononcer son nom ici? Oui, une excellente. C'est la même chose pour Apamnapat, d'ailleurs. Hein. N'oublions pas que nous avons vu les gathas comportent trois temps rituels, l'aurore, le midi, la nuit. L'Avesta récent possède cinq temps rituels, il y en a deux de plus. Entre l'aurore et midi, il y a la matinée, Havani. Entre midi et la nuit, il y a l'après-midi, Usayayirina. Or, Mitra est le dieu du temps Havani, et Apamnapat, le dieu du temps Usayayirina, le dieu de l'après-midi. Est-ce un hasard si ces deux divinités, toutes traditionnelles qu'elles soient, ne sont pas mentionnées, alors que justement, le système liturgique ne comporte pas les temps rituels qui leur correspondent. Nous avons là une raison véritable, peut-être. Nous la tenons, c'est une hypothèse, mais nous tenons une raison relativement objective à leur absence. Hein, on peut le faire. On peut voir les choses comme ça. Alors, il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison. C'est que peut-être le peuple des Gata, pour l'appeler comme ça, le peuple des Gata ne connaissait pas de divinité Mitra. Pourquoi pas ? Hein ? Ce n'est pas parce que ce dieu est bien attesté en amont de l'Avesta, dans le Rig Veda et en aval dans les mystères romains que sa présence doit être généralisée. Il y a quelques raisons de penser que ça pourrait être le cas également, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le dieu Mitra évoque tout de même quelque chose. C'est le dieu du contrat, le dieu des accords, celui qui fait observer les devoirs qui sont imposés à ceux qui sont urvata, c'est-à-dire liés par un traité. Hein ? C'est un autre nom du traité, oui. Mais pour le traité, les gathas présentent un mot que les autres strates avestiques ne possèdent pas. C'est le mot urvata. C'est un synonyme de mitra, peut-être, n'est-ce pas ? Mais c'est un autre mot. C'est un autre mot. Mais ce mot-là, lui, joue un rôle dans le yashta de mitra. N'est-ce pas ? Ce mot est accolé au mot mitra. Alors, je ferai remarquer autre chose. Le dieu de la matinée, pas ce dieu qui, d'une certaine façon, est le soleil, mitra, hein, il est la divinité qui incarne dans le cours du temps très exactement une autre conception qui figure dans les gathas et qui est l'amaïta. C'est un mot un peu énigmatique, n'est-ce pas ? Mais je dirais, pour le traduire ici avec vous, je dirais le contraste. Lorsque l'on installe le feu rituel et que la lumière du feu apparaît dans la nuit, eh bien, il y a une situation de maïta que l'on définit comme ça. Le contraste entre la lumière et l'obscurité de la nuit. Or, ce n'est pas la racine qui rend compte du nom de Mitra, vous savez. L'aspiration dans Mitra est secondaire. Ce n'est pas la racine qui explique Mitra, c'est la racine mit qui veut dire ériger. Hein, c'est la borne des terrains, n'est-ce pas, qui délimite les droits de chacun dans les pâtures. Mais malgré tout, dans son nom, secondairement, se manifeste une aspiration. L'aspiration ici est primaire, c'est la racine qui comporte une aspirée. Alors, voyez, nous nous trouvons devant un réseau tout de même qui évoque la personnalité de Mitra. C'est pas ? Mais peut-être avons-nous une autre situation dialectale, un peuple qui peut-être ignore la divinité Mitra, mais qui connaît parfaitement ce qui l'incarne, les forces allégoriques qui l'incarnent, à savoir les alliances, la nécessité de respecter les traités, mais aussi la situation à la jointure de la lumière et des ténèbres, ce qui est aussi le cas de Mitra. Alors, on pourrait poser la question de ce qui est une telle forme de monothéisme. Je suppose que mon collègue Thomas Rumer vous avait bien expliqué que c'est aussi un très drôle de processus que la formation du monothéisme juif, bien complexe, bien étrange, n'est-ce pas ? Et je sais que, en tant que spécialiste du Proche-Orient, Thomas Rumer et ses collègues assyriologues parlent volontiers, pour l'émergence du monothéisme juif, d'un processus royal. C'est la montée des systèmes politiques présentant où le pouvoir politique est incarné par un personnage personnage de l'empereur ou du roi, eh bien, le même phénomène se manifeste dans le Panthéon et on voit émerger un dieu supérieur, puis finalement un dieu unique, qui finalement est une figuration de la personne du roi. Nous ne pouvons pas nous recourir à cette explication-là, nous ne pouvons pas recourir à cela. Pas parce que probablement le processus qui fait émerger lentement Mazda de son panthéon est un processus qui a eu lieu dans des sociétés qui étaient beaucoup plus humbles et où le pouvoir politique était beaucoup moins complexe. Alors, je pense qu'il faut recourir à la vieille explication. Je crois que le mot avait été prononcé par Dermestetter. Il n'a pas parlé de monothéisme royal, mais il a parlé d'une tendance au monothéisme uranien, n'est-ce pas ? Dans la mesure où Ahura Mazda est le vieux père ciel, le Jupiter ou le Zeus, le Diaus Pitar de l'Iran, il est l'incarnation du ciel, eh bien, le ciel tend à devenir la divinité supérieure et peut-être même à se faire la divinité unique. Elle n'est pas unique, la nôtre. Il y a un panthéon. Alors, moi, je vous proposerai, j'ai l'impression, c'est l'impression actuelle, c'est celle sur laquelle je vais vous laisser cette année, que Ahura Mazda n'est pas un dieu unique, c'est une fédération de divinités. Il est la fédération des petites divinités multiples qui expliquent, qui peuvent se définir comme les acteurs de la lumière diurne. Il est certainement le ciel. Mais ailleurs, n'est-ce pas, mais tous les autres sont là, rassemblés sous son égide. La voûte céleste, sous le nom de la bonne pensée, Vohumana, n'est-ce pas, le Maniou, qui est l'espace lumineux entre le ciel et la terre. C'est bien tous les acteurs de la lumière du jour sont fédérés par la personnalité d'Ahura Mazda, en quelque sorte. Alors, dans ce cas-là, vous savez aussi, Mitra pourrait très bien être présent sans que son nom soit prononcé. Il pourrait être là aussi, car il est un acteur comme les autres de la lumière du jour. Pourquoi, alors, son nom n'est-il pas prononcé alors que celui de Vohumana l'est ? Bien justement, parce que les gathas sont cela aussi, peut-être, n'est-ce pas ? C'est un hymne à la pensée. C'est un hymne à la pensée. Faites le compte des entités dont le nom est formé sur la racine qui signifie pensée. Vohumana, la bonne pensée. Armaiti, la juste pensée. Le Maniou, la vie. C'est ce schéma de la double nature qui l'emporte. Mazda lui-même, n'est-ce pas, dans son nom, comprend le nom de la pensée. Et là, peut-être, nous retrouvons finalement, en posant la question du monothéisme et en l'éludant, parce que comment faire autrement, nous retrouvons finalement notre schéma essentiel, n'est-ce pas ? C'est cette espèce de spéculation philosophique qui voit derrière tous les phénomènes naturels une force d'une double nature, l'osseuse et celle de pensée, justement. Derrière tout phénomène naturel, il y a un phénomène de pensée. Et nous avons là peut-être, je crois, la clé du système mazdéen, dans ce texte tellement mince que nous ne pouvons pas pousser l'analyse beaucoup plus loin, et qui va se figer lentement, dès l'Avesta récent, dans le système millénariste de la doctrine des millénaires. Bien, je vous laisserai sur cette conclusion, je vous remercie. Un petit moment, s'il vous plaît. Je voudrais encore dire deux choses. D'abord, prévisionnelles, c'est que je vais vous laisser aujourd'hui, bien sûr, mais au mois de mai, à partir du 14 mai, je pense, nous aurons quatre conférences par le professeur Alberto Cantera. Donc le 14 mai, tous les mardis à 10h du matin jusqu'au mardi 4 juin, quatrième et dernière conférence. Ces conférences auront pour titre la liturgie longue zoroastrienne, c'est-à-dire le yasna, on peut l'appeler comme ça entre nous, et la manière que nous avons de l'aborder maintenant, la nécessité aussi de faire une nouvelle édition. Tout cela nous sera expliqué par Alberto Cantera. C'est un peu plus lointain, ça concerne l'année prochaine, l'année académique prochaine, mais notre activité commune, si vous voulez la maintenir, elle commencera dès le 7 ou le 8 novembre et par un colloque, hein, par un colloque organisé dans une certaine mesure, quoi qu'il soit à la retraite, mon collègue Pierre Briand et moi, qui sera en deux jours, le 7 et le 8 novembre, il sera consacré à la religion des Achéménides et au problème plus restreint de la confrontation des sources, la confrontation des sources que nous avons sur la religion achéménide. Alors voilà, après cette annonce, je vous remercie. Si vous avez une question, comme c'est la dernière leçon, allez-y. Ce n'est pas traditionnel, je le sais, mais si vous avez une question, je suis à votre disposition.